Salut Pierre-Yves.
Salut Patrick.
OK, tu veux nous parler d'Amazon?
Oui, parce qu'Amazon dit, on veut mettre en place, en fait, elle ne le dit pas, hein, c'est sorti dans le Wall Street Journal, on veut mettre en place des magasins 3000 mètres carrés, ça c'est à peu près la grosseur, disons, d'un tiers d'un grand, grand magasin qu'on peut voir dans les surfaces américaines. Et puis, tu sais, on est déjà allé chez Amazon sur les coins de rue. On a eu, par exemple, des magasins 4-star, qui sont dans le fond tous les produits 4 étoiles, les magasins Amazon Books, Amazon Go, qui est comme une épicerie qui est dépanneur à Seattle, qui est plus du genre sans caissier. Donc, on détecte que tu enlèves les produits puis on te les charge sur ta carte. Amazon Fresh, qui est une épicerie, puis on a acheté Whole Foods. Disons qu'on est déjà là-dedans. Qu'est-ce qu'on a fait chez Amazon, Patrick? C'est qu'on a fait pendant 20 ans la collecte de données, puis on a déterminé qu'est-ce qui valait la peine d'être vendu, qu'est-ce qui valait pas la peine d'être vendu. Puis si on dit, par exemple, on ouvre un magasin en Californie puis qu'on sait que dans ce secteur-là, ce type de produit-là se vend plus, voici les marges, voici ce qui est payant. Donc, tu peux être capable de décider qu'est-ce que tu vas mettre dans ton magasin en fonction de toute l'intelligence artificielle, toutes les données que tu as cumulées depuis des années. Et c'est ça qui donne l'avantage à Amazon. Par contre, du côté des actionnaires, je suis pas sûr que c'est la direction qui est encouragée, parce que quand tu regardes l'action, quand Amazon fait ce genre de décision-là, d'aller plus dans le day-to-day, d'aller dans notre vie là, au niveau de la rue, puis d'acheter comme un magasin de détail normal ou conventionnel, l'action vivote. Puis d'ailleurs, l'action vivote depuis quelques mois. Donc, il y a ça, là, parce qu'on sait que l'argent vient beaucoup du département service. Hein, c'est-à-dire que c'est pas les ventes en ligne, c'est AWS, hein, c'est le Web Services, c'est tout ce qui est un peu intangible. Et quand on regarde les états financiers d'Amazon des dernières années, juste te donner une idée, là, pour le trimestre fini le 30 juin en 2017, il y avait au total 38 milliards de ventes, 197 millions de bénéfices nets. Ça, c'est en 97, OK? Le deuxième trimestre. Cette année, en 2021, 113 milliards de ventes, 7,8 milliards de bénéfices nets.
Pour un trimestre.
Pour un trimestre. Ça te donne une idée? Le secteur service est presque deux fois la valeur des ventes totales d'Amazon il y a 4 ans. C'est incroyable. Mais là, la question, c'est est-ce que Amazon va pouvoir continuer à avoir une position dominante et à forte marge sur le cloud quand tu as des Apple, des Microsoft et autres qui rentrent là-dedans et il y a d'autres joueurs? Et donc, est-ce que c'est ça qui va pouvoir continuer d'exister? Mais ils ont toujours une position d'avance. Alors, la question, c'est de dire, est-ce qu'on veut aller sur le coin de la rue pour mettre encore plus dans la tête du client qui peut s'intégrer avec Amazon Prime et tout ça, ou on dit non, on va laisser plus le marché physique aux autres? Walmart se bat pour avoir les deux. Mais Amazon a la chance, Patrick, de ne pas être identifié au niveau du réseau de distribution. C'est-à-dire, quand tu es un riche, là, que tu vas à Westmount, là, tu ne vas pas au Dollarama souvent, mais tu vas chez Amazon. Parce que la livraison, tu fais pas, il n'y a pas une différenciation du magasin. Il n'y a pas de standing ou de statut social chez Amazon. Tu achètes en ligne un produit défini. Et donc, c'est un distributeur universel. Si tu t'en vas sur le coin de la rue, là, ça te prend une identité. Comme Walmart a une identité, comme Dollarama a une identité, comme Costco a une identité. Donc, ça diffère.
Mais Pierre-Yves, ils sont tellement riches chez Amazon, ils ont tellement de ressources, je veux dire, qu'importe le marché qu'ils veulent investir, ils ont des chances de gagner.
Oui, mais ce qu'ils veulent dire, c'est que jusqu'à maintenant, oui, il y a les livres aux États-Unis, ça marche bien, mais au niveau, par exemple, de la nourriture, tu sais, on veut aller dans la nourriture parce que c'est de la consommation quotidienne, comme Walmart a fait pour attirer les gens. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont mieux performer que les autres en détail régulier, mais ça va intégrer la marque. L'affaire, c'est que si tu es client Amazon Prime et tu as des avantages physiques, virtuels, avec tes vidéos, avec ta musique, ça va être un peu comme la famille de produits Apple. Tu vas venir à consommer peut-être de façon intégrée. On n'est pas rendu là au Québec encore, on parle vraiment des États-Unis. Mais quand même, ça fait peur. Quand je vois les chiffres, je te dis, là, moi, j'ai vérifié des états financiers comptables de compagnies publiques pendant des années. Puis quand je vois les chiffres d'Amazon, c'est comme en milliards au lieu d'être en millions les mêmes chiffres. C'est décapant.
OK, il y a Toys R Us Canada là, qui change demain.
Il change demain. C'est un nouveau fonds qui achète, mais les opérations, on n'achète pas les immeubles, on achète les magasins. Et puis, on dit que pendant la pandémie, Patrick, je ne sais pas si tu sais, mais il s'est vendu beaucoup plus de jouets. Il y aurait eu aux États-Unis un boom de 19 % des jouets par rapport à une perte de terrain en 2019 de 4 %. Pourquoi? Mais les parents se sentaient coupables, ils voulaient pas que les enfants jouent avec les tablettes, fait qu'ils achetaient des jouets. Et donc, on s'est mis à acheter des jouets et ça a donné un boost, si tu veux, au magasin de jouets. Mais la question, c'est, est-ce que les clients sont assez attachés à Toys R Us pour ne pas commencer à voir son magasinage autrement. Parce que, un, les magasins de jouets de quartier peuvent avoir sensiblement des jouets équivalents au même prix parce que les fabricants décident des prix pas mal. Tu sais, tu peux pas vendre un Lego à gros rabais parce que Lego définit le prix qu'on doit le vendre. Mattel va te dire la poupée Barbie, il faut que tu la vendes à tel prix. Et donc, Toys R Us est un magasin de jouets d'autres fabricants. Alors, c'est quoi l'avantage de Toys R Us? C'est l'image que tu vends. C'est le réseau de dire il y a plein de jouets ici.
Puis le guichet unique, puis tu peux les voir de tes yeux vus plutôt que sur un écran avant d'acheter.
Ça, c'est vrai, mais quand tu es dans un magasin de jouets de coin de rue, ils sont là aussi. C'est juste que c'est moins gros, c'est moins vaste, c'est moins power center. Mm. Mais au total, tu te bats contre ça, puis tu te bats contre Internet. Donc là, je vais donner un exemple. Depuis 2-3 ans, moi, je magasine mes jouets de Noël pour mes enfants. Ben, c'est bien de valeur, mais je suis allé dans le commerce de quartier, puis sur Internet. Je me suis pas tapé 23 minutes pour aller aux galeries d'Anjou, ouvrir, arriver à la caisse, dire bonjour, monsieur McSween, en avez-vous vraiment besoin des jouets pour vos enfants? Tu sais, il y a cette économie de temps-là. Tu sais, c'est aller-retour chez Toys R Us. Tu sais, ça prend une heure et le magasinage inclus. En ligne, chez Toys R Us, c'est plus rapide et ailleurs aussi. Donc, est-ce que le site web de Toys R Us Canada va être assez incroyable et assez fort pour justifier l'achat chez Toys R Us en ligne? Parce qu'il y a ça qu'on a. Hey, aller dans les centres d'achat pour magasiner dans les fêtes. Il y en a peut-être qui aiment ça, mais moi, ça, je sais pas, toi, Patrick, est-ce que tu adores l'expérience?
D'aller magasiner pendant les fêtes. Ouais,
tu sais, quand il y a plein de monde. Ouais, en présentiel, il y a plein de monde, il fait chaud, le monde t'accroche.
Je vais te répondre avec une question. Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que non. Mais là, peut-être que tu es un cas spécial, tu sais. Mais mettons, les gens qui aiment ça magasiner, là, est-ce que le fait d'aller encore chez Toys R Us a la même valeur qu'avant? Je suis pas certain. Est-ce que Toys R Us a une valeur distinctive? Je suis pas certain. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça maintient des milliers d'emplois. On va ouvrir encore des magasins, puis ça va garder une marque qui va être détenue de façon, si tu veux, ça va être développée de façon canadienne, parce qu'on a vendu les opérations canadiennes seulement. Donc ça, c'est intéressant. Mais, tu sais, on pourrait peut-être avoir une valeur québécoise, c'est-à-dire les jouets sont nous, ils sont à nous.
Ah oui, oui. C'est,
les jouets sont à nous.
On va traduire littéralement le slogan, la marque.
Les jouets sont à nous.
Écoute, il y a des bannières qui devraient se franciser, mais celle-là, ça se dit un peu mal.
Ben, deuxième tasse, ça aurait été popé.
Deuxième, second cup, deuxième tasse, OK, on continue.
Ouais. OK, le roi du burger.
Burger King.
Magasin du futur.
Ah oui, le magasin du futur. Ouais. Le meilleur achat. Hein?
Mais l'abbé le fait.
L'abbé le fait?
Bureau en gros le fait.
Ouais. Oui, c'est vrai. Staple, qui est bureau en gros, mais t'as l'autre aussi, Circuit City.
C'est la source.
La source? Oui. Tu sais que McDonald's pourrait devenir le MC Gilles?
Tu voulais la faire depuis longtemps, hein?
Ouais, peut-être préparé.
Tu pensais à te lancer en humour, Pierre-Yves?
C'est-tu quoi?
C'est son rêve.
Je vais te parler de marché.
Vas-y.
En humour, il y a une offre et une demande. Mm-hmm. Le marché de l'humour au Québec est inondé d'offres. Et le public en demande-tu autant? Je suis pas certain. Et donc, te lancer dans le marché de l'humour en 2021, c'est pas comme, mettons, en 2000. Tu vois, moi, j'ai vu un illustre inconnu en 1999 à HEC Montréal. On l'avait payé vraiment pas cher pour qu'il vienne nous faire la présentation des prix. Okay. Mm-hmm. Cet illustre inconnu, non, ce n'est pas MCG. On avait payé 1000$. C'était bien trop cher pour MCG à l'époque. On avait payé Louis-José Hood.
Combien?
1000$.
Sais-tu combien c'est à cette heure?
50 000$, probablement.
Bon, peut-être la moitié de
ça. Puis ça, il tente. Parce que, tu sais, Louis-José peut se dire aujourd'hui, tu vois, quand t'es rendu à ce niveau-là, tu peux dire, ça me tente pas.
Mais je pose ta réflexion, Pierre-Yves, si on y va toujours en marché, en offre et en demande. Tu sais, l'offre des comptables qui font de la vulgarisation.
Oui.
Il y en a
rien qu'un.
C'est ça.
Mais il y a beaucoup de demandes. Alors là, l'avantage, c'est que tu es en train de me dire t'es mieux dans ton créneau.
Ce que tu me dis, c'est que la seule raison pour laquelle t'es pas sold out au Théâtre Saint-Denis avec ton one-man show, c'est une question de marché.
Et c'est surtout une question de, hey, t'as le choix de travailler dans le jour ou toutes les fins de semaine.
Ce qu'il nous dit surtout, c'est qu'il est le Hydro-Québec ou le SAQ de la comptabilité, c'est-à-dire qu'il a un monopole.
Non, pas du tout. Je suis dans un oligopole, il y a moins de joueurs. Et MCG, je te dirais plutôt que t'es dans un monopole de vulgarisation country.
Je dois vous arrêter, messieurs. Hey, bonne Salut. Fin de semaine, Pierre-Yves. On se retrouve lundi. OK, petite pause au retour, chronique showbiz. Showbiz, non. Quasiment chronique culinaire, Mme Beauchamp.
C'est un livre, c'est du showbiz.
C'est du fast-food.